Vous avez vu qu'avec le début de l'Avent, il y avait un changement dans les ornements que le prêtre revêtait, avec la chasuble violette, cette même chasuble violette que le prêtre revêt au moment du carême. Elle est signe d'une conversion. Mais la symbolique entre carême et Avent est bien différente. Dans l'Avent, il s'agit d'une conversion joyeuse. Joyeuse parce que on attend l'enfant qui nous vient dans la crèche, on attend le Seigneur qui vient à notre rencontre. C'est une grossesse, et une grossesse, c'est un moment joyeux. C'est dire aussi que cette question de la joie habite toute la question du carême. Mais en quoi c'est une conversion, l'Avent ? En quoi c'est une conversion ? C'est une conversion dans le sens où il nous faut vivre le déjà et le pas encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la vie chrétienne, nous avons une tension. Une tension entre le déjà, le royaume de Dieu est déjà là, il est au milieu de nous et Jean-Baptiste l'annoncera, vous n'avez pas reconnu celui qui est déjà au milieu de vous. Et puis le pas encore dans une plénitude. Nous souhaiterions avoir déjà cette plénitude qui soit là dans notre vie présente, mais notre monde est tellement bouleversé, malade. Eh bien, cette tension entre le déjà et le pas encore, Jésus l'exprimait de façon différente, entre vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Et on voit cette tension à l'intérieur même du passage d'Évangile que nous venons d'écouter. Il y a d'abord le rappel historique des lignes assez importantes, des versets assez importants, sur à quel moment se situe le ministère de Jean-Baptiste. Et puis, donc ça c'est le côté historique, et puis ensuite l'avenir. L'avenir, on voit les montagnes seront abaissées, les ravins seront comblés, les chemins rocailleux seront aplanis. On voit aussi dans le ministère de Jean-Baptiste, il y a cette tension entre les deux. Et cette tension, on la verra aussi à l'intérieur de la vie de Jean-Baptiste, quand, vous le savez, il a été mis en prison après avoir dénoncé l'attitude d'Hérode et qui avait été touché par la fille d'Hérodiade, etc. Et on voit bien qu'il y a eu un moment de tension, d'incertitude. Vous vous rappelez ce moment où il envoie des messagers et dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Devons-nous en attendre un autre ?» On voit bien qu'il y a quelque chose aussi de tourmenté dans sa vie de Jean-Baptiste, parce qu'on pense aussi appartenir au parti des Esséniens, le parti des Esséniens, c'est-à-dire des gens assez radicaux dans leur manière d'agir. Vous vous rappelez, il y a des paroles très dures, voici que la cognée est à la racine des arbres, c'est-à-dire convertissez-vous, vous périrez tous. Ce côté très prophétique, on voit bien que Jean-Baptiste est une charnière, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la charnière, elle souffre, on le sait bien, dans une porte, c'est la charnière qui supporte beaucoup de poids et de tension. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, de notre côté, de notre point de vue, celui qui annonce le Christ, et en même temps, il nous fait passer dans la Nouvelle Alliance. Donc ce côté charnière, ce côté déjà et pas encore, il l'a vécu dans sa propre chair, Jean-Baptiste. Il l'a vécu dans sa propre vie, avec des moments de doute, parce que lui qui pensait à un retour du paradis terrestre, parce que, vous le savez, dans la tradition juive, le Messie vient rétablir le paradis terrestre, qu'il y ait une paix radicale entre les hommes, une communion, qu'il y ait une abondance de biens, que rien ne manque à personne, que la justice soit partout pareille, c'est le paradis terrestre. Et il voyait, ce cher Jean-Baptiste, il voyait la vie de Jésus s'avancer et le paradis ne venait toujours pas. Et c'est vrai aussi que les Juifs nous reprochent que votre Messie, où est-ce qu'il est ? Est-ce que depuis 2000 ans, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux ? Si ce n'est que nous, ce n'est pas cette réalité du paradis terrestre. Mais vous prenez conscience que renoncer au paradis terrestre, c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. On aimerait que ce monde soit un monde où la paix règne, une plénitude. On aimerait ça. On aimerait que ce monde soit un monde de communion. La réalité d'aujourd'hui, mais la réalité d'hier et des siècles passés, j'allais dire depuis le péché originel, est bien autre. C'est un monde qui est bouleversé, mais c'est un monde qui est habité. Et c'est là la grande différence avec l'Ancien Testament. Non, nous n'attendons pas un nouveau paradis terrestre. Nous savons que sur cette terre, il y aura toujours des guerres, des injustices, des inégalités, de la famine, voilà, des maladies. Voilà, nous le savons. Mais notre regard est planté dans les cieux. Notre regard est planté dans les cieux. Et il faut accepter de vivre cette incomplétude. Il faut accepter de vivre ce moment qui est délicat comme chrétien, se dire j'ai le désir d'une plénitude, j'ai le désir du royaume de Dieu, et en même temps je constate tellement de manques, de difficultés, d'injustices dans notre monde, tenir les deux en même temps. Et le désir du royaume de Dieu, pour nous, disciples de Jésus, ne nous désengage pas de cette terre. Nous avons aussi notre part à prendre pour rendre ce monde plus fraternel, plus juste. Mais nous savons, de toutes les manières, que nous n'arriverons pas à une plénitude. Nous savons que ce monde sera toujours bouleversé. Et dans nos villes, il en est pareil. Parfois aussi, on souhaiterait une plénitude d'amour dans la famille, dans le couple, avec les belles familles, et surtout au moment de Noël. On voit bien que c'est un moment qui n'est pas toujours facile à vivre. Parce que c'est là aussi que toutes les tensions, les incompréhensions, les manques de communication ressurgissent au moment de Noël. Eh bien, c'est aussi de dire que Jésus est venu habiter ce monde. La présence de Dieu, Dieu lui-même, a voulu s'incarner pour dire que ce monde vaut la peine d'être vécu. Alors, c'est à nous, comme disciples de Jésus, d'être attentifs à ce moment-là que nous vivons, d'accueillir les tensions, quelle qu'elle soit, on le sait bien, je vais dire, il n'y a qu'au cimetière que nous serons complètement détendus, mais en attendant, eh bien oui, il y a à accueillir ces tensions dans notre société, dans le couple, dans la famille, mais de se dire que ce monde-là où il y a des tensions, eh bien c'est un monde où le Seigneur a voulu habiter. Et donc c'est un monde que nous avons à aimer, nous avons un monde à aimer. Donc c'est vrai que la figure de Jean-Baptiste est très touchante, parce que c'est le cousin de Jésus, c'est l'aîné, mais il a cette dimension de grande humilité. On dit que c'est le saint patron des maîtres des novices. Il indique le chemin à tous ceux qui veulent découvrir le Christ. Alors oui, pour chacun d'entre nous, le temps de l'Avent, c'est un lieu qui est important, parce que c'est un lieu qui nous fait redonner l'espérance. Vous faites bien la différence entre espoir et espérance. L'espoir, on peut avoir l'espoir qu'il fasse beau en Picardie. Ça, c'est un espoir humain. Mais ce n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est l'espérance dans les promesses de Dieu. Donc c'est cette espérance dans les promesses de Dieu, que Dieu séchera toutes les larmes de nos yeux, c'est cette espérance-là qui nous fait agir dans le quotidien. Très belle encyclique du pape Benoît XVI sur l'espérance, qui rappelle justement l'urgence de l'implication des chrétiens dans ce monde. Mais parce que nous sommes mus par l'espérance d'une plénitude, que nous pouvons accueillir ici-bas une béance, une incomplétude. Mais parce que nous avons justement dans le regard cette confiance que le Seigneur, un jour, dans l'au-delà, viendra combler tous nos désirs. Alors oui, c'est un temps de conversion, on le voit bien, joyeuse, mais c'est un temps de conversion, ce temps de frottement entre le déjà et le pas encore. C'est un temps qui n'est pas si simple à vivre quand on le vit sérieusement. Alors la joie de l'espérance d'une fécondité qui est le salut par excellence, le Christ lui-même, et puis de voir en même temps tous les défauts peut-être qui sont en nous, ou les fragilités que nous portons et autour de nous aussi. Et parfois, on peut se décourager. C'est pour ça que le temps de l'Avent, c'est un temps où on reprend courage, reprenez force. On entendra plusieurs fois dans la liturgie, voilà, ne vous laissez pas abattre. Et on voit bien avec le prophète Baruch, hein, et puis Jean-Baptiste qui cite Isaïe, voilà, qui redonne confiance. Baruch, vous savez, c'était pendant l'exil, donc c'est le scribe de Jérémie. Hein, donc on a une période très difficile, voilà, où tout le peuple hébreu est en exil, etc. Et puis lui dit, voilà, viendront des jours où le Seigneur viendra habiter sa propre terre. Alors oui, nous avons une responsabilité comme chrétiens, comme disciples de Jésus, nous avons une responsabilité de porter haut cette espérance. Et puis, cette responsabilité plus personnelle, de ne pas laisser notre joie être entamée par les difficultés de la vie quotidienne, les difficultés des relations, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie familiale, matrimoniale. Voilà, on voit bien qu'il y a des lieux de tension. Ben justement, le Seigneur nous dit, reprenez force, mettez votre regard, plantez-le dans les cieux pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.